J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est une diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la liste de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir la fréquence de la paix Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro de la semaine. Dans une ordonnance publiée le mardi 1er mars dernier, le chef de l'État congolais a nommé des juges dans différents cours et tribunaux à travers toute la République démocratique du Congo. Ces restructurations ont été aussi opérées dans les cours d'appel de nouvelles provinces. Certains observateurs estiment que ces nominations relancent donc les débats sur la poursuite du processus de la réforme de la justice qui était même au centre d'échanges lors des derniers états généraux de la justice organisés du 27 avril au 2 mai 2015. Des assises qui ont formulé entre autres orientations, la révision des frais de la justice, la gratuité du certificat d'indigence, l'actualisation du taux des amendes pour une justice pour tous. Alors qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapu.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de réagir sur notre page Facebook. Julie Pesabongonda est au standard. Pierre Lamégi réalise cette émission. Jacques Tala assure la mise en ordre de ce programme coordonné et présenté par Gilles Lugembo sous la supervision de Martin Sebou Jalvé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne, Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Voilà, vous avez suivi notre sommaire. Nous avons annoncé que, en fait, dans une ordonnance publiée le mardi, le chef de l'État a nommé des juges dans différents cours de tribunaux, mais qu'à cela ne tienne. Mais aujourd'hui, les débats sont lancés sur les états généraux qui ont été organisés au mois de mars et avril de l'année dernière. Alors, certains observateurs estiment qu'aujourd'hui, bon, nommer, c'est une chose, mais améliorer l'accessibilité ou l'accès à la justice, ce n'est encore une autre. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de vouloir améliorer l'accès à une très bonne justice?
Merci beaucoup, Gilles, de la parole que vous m'accordez. Je m'en vais d'abord féliciter tous les magistrats promis donc de notre province du Kasaï central. Je leur souhaite une bonne suite de leur carrière. Revenons maintenant à la thématique. Et je pense que cette opinion a totalement raison hier, parce que ça ne sert à rien de procéder aux nominations, aux élévations des postes, et donc pour ne pas se rendre compte de la suite, parce que nous émettions déjà la première crainte par rapport à cette thématique. C'est lorsque vous allez vous rendre compte qu'il y a la plupart des magistrats qui ont été promis, ils sont appelés d'aller à gauche, à droite. Chez nous ici, il y a déjà les mouvements demain, le président du tribunal de paix de Kananga va aller. Il va sans doute rester invide à son poste parce que ceux-là qui sont appelés de venir ici, donc ils entendent que Kananga, ils se retiennent un tout petit peu. C'est ce qui fait qu'il y aura vraiment un blocage fonctionnement des cours des tribunaux chez nous ici. C'est comme ça que nous lançons déjà le premier appel au père du Conseil supérieur de la magistrature d'être vigilant à cette fois-ci, de sanctionner ceux-là qui pourront refuser de venir répondre à temps à leur poste d'attache. Et aussi, nous lançons le même appel au père du gouvernement congolais parce que très souvent, ces magistrats-là sont appelés à se prendre en charge pour se déplacer, mais s'il n'a pas les moyens, c'est ce qui fera que le magistrat ne puisse pas venir donc pour travailler. Deuxièmement, par rapport à la réforme, je pense que c'est très 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 important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous assure, en tant qu'avocat, certaines personnes ou certains citoyens congolais sont butés à des difficultés énormes pour accéder à la justice par rapport aux frais qui sont extrêmement exorbitants. Hein, lorsque vous commencez dans la procédure, vous sentez que c'est facile, mais en pleine procédure, ces gens-là sont obligés vraiment d'abandonner et nous avons donc un tour dans les différentes grèves pour voir comment est-ce que les dossiers sont vraiment abandonnés en cours d'instance. C'est pour ça que nous appelons maintenant le Conseil supérieur de la magistrature par rapport aux recommandations prises lors de, donc, de les assises de la fois passée, de les mettre le plus rapidement possible en œuvre pour essayer de revoir les différents frais pour aussi exonérer certaines parties. Parce que chez nous ici, il y a certaines personnes, visiblement ce sont des indigents, hein, ils se présentent avec toutes les pièces possibles, mais ces personnes-là sont toujours butées à ces difficultés-là pour les accepter. Et aussi en ce qui concerne les amendes, c'est aussi un problème. Hein, parce que les amendes sont fixées lorsque on voit quelqu'un en face, il est bien habillé, il a une bonne santé, on croit qu'il a l'argent et on vous fixe surtout en ce qui concerne les amendes transactionnelles, donc les frais de mise à liberté provisoire. C'est comme ça que nous estimons qu'il faut qu'on puisse actualiser ces frais-là. Heureusement que le Conseil supérieur de la magistrature, lors de ses assises, avait déjà compris. Donc nous estimons qu'il faut qu'on puisse actualiser ça, qu'on puisse sortir un canevas qui pourra vraiment permettre à tous les magistrats de suivre ça pour voir comment est-ce qu'il faut commencer à ça, donc à demander les uns aux autres au lieu d'assister.
Une année après, parce que les assises ont été organisées l'année dernière, une année après, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi aujourd'hui ces recommandations, en tout cas pour quelques-unes que vous venez d'évoquer, entre autres la révision des frais de la justice, la gratuité des certificats d'indigence et l'actualisation du taux des amendes, parce qu'aujourd'hui, dans les différents sous-commissariats, on fixe les amendes transactionnelles comme on veut, devant l'OPJ, mais voilà, il y a tant de problèmes qu'on devait déjà régler. Alors qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi ces applications, disons, ces recommandations ne sont pas d'application notamment?
Oui, j'ai cette question à ma... C'est comme ça que j'avais contacté certains responsables de la magistrature au niveau de la province. C'est un véritable ping-pong. On me laisse voir ce gouvernement qui bloque. Et lorsqu'on a contacté aussi le pouvoir public, on dit que non, ça c'est nous respectons l'indépendance de la magistrature, donc de la justice. C'est eux qui devraient déjà présenter donc un canevas et nous proposer ce qu'ils sont fermés. Puisque là, nous continuons de s'attendre, rien ne fait. Et c'est comme ça qu'avec la thématique du jour JR, je pense que ça tombe à point nommé pour essayer de bouger encore les choses. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut bloquer toutes ces recommandations. Parce que je m'étais dit, le jour où on mettra en application ces recommandations, ça sera aussi un déblage pour notre justice. Mais tant que ces recommandations seront au tiroir, tant que ces recommandations seront mises au frigo, je pense que ça sur le place qu'on commencera à faire, des pas, on recule de 50 pas. Voilà, c'est là que moi je pense que le moment nous est vraiment accordé pour que nous puissions lancer ces cris d'alarme.
Voilà, alors pour rappel, comme vous l'avez dit, aujourd'hui la plupart des magistrats promus sont appelés à se déployer au niveau de leur lieu d'affectation, mais ils se posent souvent à un sérieux problème de moyens, ce qui empêche parfois certains d'aller à leur poste d'attache. Et ce problème est devenu récurrent à chaque nomination. Aujourd'hui, votre souhait est qu'on puisse, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, voir de près, être un peu regardant sur ces problèmes, question de renforcer encore la justice pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif assigné lors des états généraux qui ont été organisés le mois d'avril et le mois de mai de l'année dernière, qui voulait qu'on puisse permettre à ce que le Congolais puisse accéder tous à la justice. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé des Kananga. Maître Trésor, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
C'est Maître Nikosa et non Maître
Adrien. Merci. Maître Adrien venait de parler. Alors, Maître Trésor, vous êtes à Kinshasa.
Ben, merci. Je félicite et je remercie le chef de l'État pour toutes ces nominations. Nous avons observé qu'il ne s'agit pas des nominations à proprement parler, mais plutôt il s'agit d'un mouvement opéré au sein de la justice congolaise, puisqu'il y a eu plus les déplacements, les permutations. On a permuté des magistrats et également il y a eu les magistrats du parquet qui sont affectés au niveau des différents tribunaux. Et nous avons également observé que certains magistrats du parquet n'ont pas transité par les tribunaux, ils sont allés directement aux tribunaux de grande instance. Et tout ceci peut être justifié par l'examen du dossier de chaque magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est aussi une façon pour le chef de l'État de contribuer à la réforme de la justice, puisque une réforme, c'est tout simplement une amélioration. On a essayé d'améliorer la façon de gérer les dossiers, les affaires au niveau de la justice. Et moi, je trouve mal qu'un magistrat reste pendant plusieurs années immobilisé dans un même ressort. Et ceci crée un danger, puisque ce magistrat-là, s'il est du parquet ou du siège, il aura tendance à se familiariser avec les justiciables et il pourra même perdre son indépendance. Mais en ce moment-là, on ne va pas voir le comportement du magistrat, mais on parlera de toute la justice. Mmh. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut toujours essayer de bouger les magistrats. Mais bon, la Constitution fait du juge un magistrat inamovible. Mais dans certains cas, on ne peut pas se fier à ce principe d'inamovibilité du juge. Il faut toujours bouger pour essayer un peu de les débarrasser de certaines personnes mal intentionnées qui cherchent à tout moment prendre les juges et les mettre dans leur poche. Mais les derniers états généraux qui ont été organisés avaient pour but principal de mettre en place un plan de réforme de la justice, en ce que je sache. Bon, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on a essayé de programmer cette réforme de la justice. En tout cas, on n'a pas...
Ben oui, mais Maître Trésor, disons que la réforme de la justice ne date pas d'aujourd'hui, et ce ne sont pas les états généraux qui devaient en principe poser des jalons, parce que si vous vous rappelez, en 2005 déjà, ou bien entendu au début 2000, il y avait déjà ce que nous avons appelé la restauration de la justice au Congo, avec le projet de partenaire qui accompagnait en fait cette réforme, avec la Régisco au niveau de l'Est de la République, après les différentes guerres que nous avons connues. Alors, ajouter à cela la réforme telle que définie par les gouvernements qui s'avaient suivi, et aujourd'hui, les États généraux avaient juste, travaillé sur la faiblesse du processus de la réforme et comment renforcer ce processus pour arriver finalement au résultat. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on a pu définir certaines recommandations, entre autres ce que nous avons évoqué tout à l'heure, la révision des frais de la justice, également l'actualisation du taux d'amende, parce qu'aujourd'hui, ça pose également problème.
Oui, mais la situation a évolué par rapport aux années que vous avez rappelées tout à l'heure. Comme la situation a évolué, on devrait également actualiser les plans, élaborer un nouveau plan de réforme.
Tout à fait.
Bon, nous sommes quand même acteurs et nous connaissons comment ça se passe au sein de la justice. Aujourd'hui, la justice congolaise, si je peux le dire, est infiltrée par certains compatriotes qui n'ont pas fait les droits. Quand on nomme les magistrats, excusez-moi de le dire, certains sont des sociologues, des politologues. Nous savons comment ça se passe. C'est pourquoi cette réforme-là nous intéresse plus. Et dans ce sens-là, moi, je propose désormais, pour ce qui concerne les recrutements des magistrats, que les facultés de droit des différentes universités crédibles soient associées et que les barreaux aussi, les différents barreaux de la République, soient consultés pour voir qui est juriste et qui ne l'est pas, qui a la qualité de devenir magistrat et qui n'en a pas. Puisque le système de recommandation, chacun recommande son enfant, on ne sait pas s'il a étudié ou s'il a fait le droit ou pas, mais quand il arrive là, bon, ça pose toujours problème. Je sais que moi, je dois respect au magistrat, mais c'est tout simplement une proposition pour essayer d'améliorer et de rendre plus efficace la justice et aussi mettre fin, si pas totalement, mais à grande partie, à tout ce qu'il y a comme accusation, puisque lors de ces états généraux, le ministre de la Justice lui-même avait dit que c'est urgent. Et il avait déploré la corruption, il avait parlé du clientélisme et des trafics d'influence. Tout ça s'est passé. La justice est dominée par des recommandations, des gens qui ont été recommandés sans connaître s'il a étudié ou il n'a pas introduit son dossier, on n'a pas étudié.
Mais alors, Maître Trésor, on va terminer. Oui, Maître Trésor, on va terminer avec vous. Mais il a été recommandé également au Conseil de l'Ordre des avocats, notamment par les participants, d'exiger une carte professionnelle délivrée aux auxiliaires de la justice. Je crois que le problème ne se pose pas du côté de ceux qui ont fait les droits, c'est vrai, mais l'ordre devait être établi au niveau des auxiliaires de la justice, où peut-être tout le monde l'a reconnu, n'importe qui pouvait arriver et faire n'importe quoi. Voilà, à ce fait-là, on exigeait quand même une carte livrée en bonne et due forme par l'ordre des avocats.
Mais je pense que si on associait la faculté des droits de chaque université crédible, et chaque barreau, on aurait réalisé une œuvre utile. Et on arrangerait beaucoup de choses par rapport au fonctionnement de la justice. Puisqu'en ce moment-là, on aura des magistrats crédibles, compétents, capables, et aussi qui ne vont pas se laisser emporter par la corruption, par toute proposition qui frise la médiocrité. Voilà,
merci beaucoup.
N'est pas bien organisé, n'est pas crédible, c'est tous les pays qui
merci beaucoup, Maître Trésor, d'avoir appelé de Kinshasa. Joséphine, vous êtes revenue depuis Boston, aux États-Unis. Bonjour, Madame Joséphine.
Ah, bonjour, Radio Capi. Hein. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. D'un coup, les deux dernières années ici, 2015-2016, le président Joseph Kabila est devenu vraiment très chargé. Il a fait des réformes, il a nommé des gens par-ci par-là. Maintenant, c'est la justice. Moi, je crois que vous êtes en train de le dire, la réforme, il a nommé, il n'a pas fait une réforme. La nomination, quand il nomme et puis comparé à la réforme, ce n'est pas la même chose. Hein, quand le chef de l'État nomme. Je suis en train aussi de voir un cas, le problème de les jeunes gens de Lucha. Hein, ils ont été jugés une semaine et puis on les a arrêtés. Mais il y a des cas comme l'argent ou bien la liste qui a été donnée des gens, c'est quel ministre encore? À la Cour suprême, on a donné une liste des gens qui ont détourné l'argent, beaucoup d'argent. On n'a jamais vu des gens arrêtés, mais on arrête les jeunes gens de Lucha. Hein, dans deux semaines, on arrête. Ce que le président devait faire, c'est créer peut-être la confiance dans la population. Je vous ai déjà raconté une histoire que j'ai vécue moi-même. C'est une histoire de parcelle. Le voisin a pris presque un mètre dans la parcelle d'autrui quand on demande d'aller à la justice. Mais on te conseille de dire que non, il ne faut pas aller à la justice.
Avec
le voisin.
Arranger à la mienne.
Oui, tu ne vas pas dormir la nuit. Hein? Le président doit tout faire pour créer la confiance dans la population vis-à-vis de la justice. je crois que c'est ça mon apport d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Madame Joséphine. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, qui de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade. Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Maître Pascal, vous gardez la ligne, on reviendra à vous d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de recevoir dans ce studio notre invité, Maître Georges Kapiamba, qui est le coordonnateur de la CAGE. La CAGE, c'est l'association congolaise pour l'accès à la justice. Bonjour Maître.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, d'entrée de jeu, quelle est votre réaction par rapport aux interventions des uns et des autres?
Alors, rapidement, je crois qu'il faut essayer de recadrer les choses, parce que j'ai suivi plusieurs interventions qui touchent même à des questions qui ne sont pas très, très importantes en ce qui concerne la mission ou les buts qui étaient poursuivis par les États généraux qui ont été organisés entre le 28 avril et 2 mai 2015 dans notre pays. Cela nous pousse à rappeler que au terme d'abord de l'article 150 de la Constitution, le pouvoir judiciaire a comme mission principale c'est de pouvoir protéger ou assurer la protection des droits et libertés des citoyens. Et dans le cadre de ces missions, il a été constaté en fonction ou au vu de plusieurs plaintes, des critiques qui étaient émises contre le fonctionnement de ces pouvoirs judiciaires qui n'arrivaient pas à accomplir ces missions, qu'il fallait faire un diagnostic, qu'il fallait faire l'état des lieux pour arriver à comprendre quels sont les problèmes, quels sont les obstacles, ainsi proposer des remèdes pour régler les choses. Donc il y a eu ces états généraux, se sont organisés autour de plusieurs thèmes, notamment l'accès à la justice, lutte contre l'impunité, réorganisation de services pénitentiaires, bref, il y a eu plus ou moins une dizaine de thèmes regroupés autour des carrefours. Plusieurs recommandations et des résolutions ont été prises. Je peux rapidement rappeler qu'en ce qui concerne l'accès à la justice, qui est d'ailleurs l'un des droits fondamentaux de tous les citoyens, qui permet à chacun de pouvoir soumettre ou d'avoir accès à un juge, il a été constaté qu'à ce jour, la manière dont les cours et tribunaux étaient répartis à travers notre territoire national ne permettait pas aux citoyens de pouvoir accéder directement et soumettre leurs litiges. Il y en a qui sont situés à plus de 300, 500 km. Il y a eu beaucoup d'exemples et nous connaissons comment se présente la carte judiciaire dans notre pays. Alors, les recommandations, notamment en rapport avec cette question, ont été du genre qu'il faut premièrement que le gouvernement congolais mobilise des fonds pour assurer l'installation effective principalement des tribunaux de paix qui, comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, ont été créés avec l'ambition de les installer dans chaque chef-lieu des territoires, de manière à pouvoir rapprocher la justice des justiciables. Mais il a été constaté lors de ces états généraux que c'était plus ou moins 30% des tribunaux qui étaient installés, et sur même les 30%, il n'y avait que plus ou moins 40% de ces 30% qui étaient réellement fonctionnels. Donc, il n'y avait pas eu de moyens qui devaient suivre pour installer, en dépit du fait que, à la suite de la mise en place intervenue après avril 2014, on avait créé d'autres tribunaux de paix
et qu'on y avait affecté les magistrats, mais les magistrats avaient fait face à beaucoup de problèmes parce qu'ils n'avaient pas de structure, ils n'avaient pas eu de moyens d'installation, ils n'avaient pas de logement, ce qui a fait que beaucoup de ces tribunaux de paix ne fonctionnent pas à ce jour. C'était la même chose pour les tribunaux pour enfants. On a constaté que jusqu'à ce jour, quelques-uns fonctionnent principalement dans des grandes agglomérations de notre pays, mais dans certains lieux qui sont aussi importants, ces tribunaux n'existent pas ou ont été créés, mais ne fonctionnent pas. Bref, le constat était que la justice manque de moyens à ce jour pour pouvoir s'installer de la manière à couvrir ou à se rapprocher davantage des justiciables. En dehors de ça, il a été aussi relevé qu'il y a eu beaucoup de cas aussi, un manque de conscience de la part de certains magistrats, ce qui concerne l'indépendance. Parce qu'il a été rappelé par beaucoup d'intervenants que l'indépendance est déjà consacrée par la Constitution et d'autres lois de la République, et que le Conseil supérieur, qui est l'organe devant assurer cette indépendance, n'a pas fonctionné comme il se doit. En ce qui concerne les propositions de nomination, de promotion, il a été aussi relevé qu'il n'y avait pas eu de rigueur. Il y a eu beaucoup de nominations, de promotions ou des affectations, des mutations qui étaient faites sur base purement de sentiments, ce qui fragilisait aussi le fonctionnement de la justice. En dehors de ça, il a été relevé la question de l'existence ou la perception des faits illégaux. Il est constaté, et c'est là, c'est pratique jusqu'à ce jour, que dans nos cours de tribunaux, pour là où ils existent, même les dépôts simples de la plainte, de la part des citoyens, exigent des paiements. Et la plupart, c'est souvent qu'on exige 10 000 francs, même au niveau de la justice militaire, où ces pratiques n'étaient pas constatées.
Alors, parce que la question relative à des nominations au niveau de l'appareil judiciaire a été également a fait l'objet de discussions au niveau des États généraux. Aujourd'hui, il y a eu des nominations à la tête des différentes juridictions, notamment les cours d'appel, les cours de tribunaux. Voilà, donc, alors, quelle est votre lecture? Est-ce qu'on a tenu compte de recommandations des derniers États généraux?
Non, pas du tout. Je dois être très honnête avec vous que j'ai les deux ordonnances portant nomination, affectation des magistrats, des cours, tribunaux, jusqu'au niveau des tribunaux de paix, aussi au niveau des parquets, tous les parquets qui sont rattachés à ces cours et tribunaux. Nous avons constaté que même s'il est dit que c'était sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, dès que ces ordonnances ont été publiées, nous, en tant qu'ACAJ, nous avons enregistré beaucoup de doléances de la part des magistrats. Et parce que nous devons aussi parler pour les magistrats.
Il y a des choses qui sont révoquées.
Oui, ceux qui sont révoqués, apparemment, au vu de la procédure, les éléments de notre possession, la procédure a été suivie. Ce sont la plupart sur les droits-là, les gens qui ne se présentaient pas à leur poste ou qui étaient condamnés. Mais nous avons relevé dans les doléances reçues que beaucoup se plaignent en ce qui concerne ce qu'ils appellent les favoritismes. Il y en a qui constatent ou qui relèvent, ça c'est vérifiable même sur les actes, qu'il y a des magistrats qui avaient déjà un grade supérieur, qui sont anciens dans ces grades, mais qui se voient aujourd'hui être dépassés par ceux qui sont venus après que eux-mêmes ont eu encadré, à former pendant leur carrière. Ils considèrent ça comme des actes qui démotivent les magistrats. Ils disent qu'on doit leur appliquer aussi la justice. C'est lui qui est plus ancien, qui n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, qui n'a pas un mauvais dossier, a droit à une
promotion. Alors, pour ce cas,
de favoriser ceux qui viennent après.
Ça saute aux yeux que des recommandations et résolutions de ces États généraux souffrent d'application.
Oui, souffrent d'application déjà à ce niveau-là, parce qu'il a été insisté dans les recommandations que les promotions et les affectations tiennent compte non seulement des compétences de l'ancienneté, mais que cela tienne compte aussi de la représentativité
provincial.
Donc, aujourd'hui, lorsque tout le monde en a fait un peu les calculs, on s'est rendu compte que, sincèrement, il y a plus ou moins, au moins deux provinces qui ont plus, sur le plan des statistiques, plus de magistrats qui ont monté en grade, qui occupent soit, qui sont soit chef d'office ou chef de juridiction, contrairement au quota qui est, qui veut dire, à d'autres provinces. Donc, ça, c'est un problème, et on doit les régler, et
voilà.
Ça passe supérieur de la magistrature.
Voilà. Merci de l'avoir, révélé cette question, parce que c'est là qui nous pousse, d'ailleurs, par rapport à cette thématique, de relancer les débats sur la réforme qui a été amorcée. Je crois qu'il y a une question qui m'est passée à l'esprit. Aujourd'hui, les États généraux, mais les États généraux sont arrivés après. Le processus de réforme a été déjà engagé, amorcé depuis 2000, c'est-à-dire 2005, déjà avec la Régisco. Bon, une question de curiosité, quel est-il aujourd'hui avec ce processus, la Régisco qui avait commencé, je crois que le projet a été arrêté, le partenariat avec
Ouais. Oui, nous savons que le projet Régisco a été plus implanté et a fonctionné principalement à l'Est, dans les provinces de l'Est, qui a constitué, à pouvoir apporter,
quand même l'appui important,
avec la construction des articles, la formation, mais aussi ça a permis à beaucoup de magistrats ainsi que de d'autres opérateurs judiciaires à pouvoir recevoir beaucoup de documents de la part de Régisco. Mais on sait aussi que aujourd'hui, lorsque vous passez à l'Est, je prends seulement la ville de Goma, vous prenez le palais qui a été construit pour la justice, le palais de justice construit pour la justice militaire, vous allez vous rendre compte qu'il n'a plus, il ne reçoit pas de moyens pour son entretien, pour la maintenance.
Même qu'à Kengi, c'était pratiquement un bâtiment vide, personne n'était pas opérationnel.
Exact. Ce qui fait que là, ça pose problème, parce que si on n'y fait pas attention rapidement, ces bâtiments risquent de perdre
de poignées, les gens vont.
Demain après demain, la justice va être encore en difficulté pour continuer.
Merci beaucoup, Georges Capierma, coordonnateur de la CAJ. Nous repassons de l'autre côté du standard avec Maître Pascal qui est à Dungu, Maître Papi Kachema à Kinshasa et Jean-Pierre Matadi. Maître Pascal, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Capi pour m'avoir sélectionné avec donc la thématique du jour.
Alors, quel est votre avis?
Oui, merci. À mon humble avis, vraiment, je suis très content de voir le nombre, donc la multiplication des nombres de juges dans notre pays. Mais il y a un adage qui dit: si vous avez une femme auparavant, avant d'engager une autre femme, il faut censurer d'abord si vous avez déjà réuni les conditions et le prise en charge de l'autre. Sinon pas, ça sera l'humiliation et les femmes vont fabriquer au mariage ce qui ne sont pas fabriqués. Cela est dit à quoi? Avant d'abord de nommer les autres magistrats, il faut d'abord arranger les conditions de travail et arranger le défi des magistrats qu'on était avec eux auparavant pour nommer ou les autres magistrats. Monsieur J.R., j'ai toujours l'habitude de vous donner l'exemple de nous ici à Otouélé. Ici à Otouélé, nous avons 6 territoires. Dans 6 territoires, on avait nommé le juge de chaque territoire, le juge de Tripé. Mais pour votre gouverne, il y a le juge arrive au niveau au lieu de l'affectation, mais retourne parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas le bureau, même le place de logement. Donc le juge, tous les juges sont retournés et restent sans boulot. Mais augmenter encore le nombre de juges sans pourtant relever les défis qui étaient auparavant, là, les juges vont fabriquer ce qu'ils ne font pas fabriquer. À ce qui concerne la nomination, bien la nomination, mais la nomination, nous avons, donc là, la justice sera en indépendance restreinte. Parce que nous cherchons que la justice soit en indépendance totale. Pourquoi je dis en indépendance restreinte? Parce que les juges, les magistrats nommés travailleront en faveur de celui qu'il a nommé. Parce qu'il ne peut pas aller en dehors de celui qu'il a nommé. Là, déjà, l'indépendance de la justice Donc ce sont déjà l'indépendance totale. Donc là, je vais souhaiter que le magistrat et les juges soient votés comme en Amérique.
Voilà, maître Pascal, c'est vrai que nous avons tous lu l'ordonnance nommant les juges, hein, qui parle au fait de la proposition qui sera venue du Conseil supérieur de la magistrature. Donc je crois que là, il y a quand même un aspect d'indépendance de ces pouvoirs judiciaires.
Oui, c'est ça, monsieur le journaliste. Moi, je n'ai pas dit, mais je dis que non, il y a l'indépendance, mais restreinte. Parce que ces gens qui sont nommés, les magistrats qui sont nommés, donc, vont travailler à faveur de celui qui l'avait nommé. Prenons l'exemple que non, c'est l'un des ministres ou l'un de celui qui l'a nommé qui a posé des actes. Est-ce qu'il va poser le procédure comme indépendance totale? C'est là que je parle de l'indépendance restreinte. Nous sommes indépendants. Mais nous avons l'indépendance restreinte parce que les juges sont.
Voilà, nous avons l'invité qui va nous éclairer là-dessus sur l'indépendance restreinte. Merci beaucoup, Pascal. On va prendre encore Maître Papy Kachema, je crois, qui est accusé de ça. Papy, vous êtes avec nous, Maître.
Bonjour, bonjour, J.R., bonjour aussi à l'invité.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, M. J.R. D'entrée de jeu, moi, je félicite tous les magistrats et les juges qui ont été promis. Parce que c'était ça le souhait. Mais je ne sais pas analyser dans tout objectif ces nominations, étant donné que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Mais ce que je sache, M. J.R., le professeur Balanda, lorsqu'il nous enseignait les enseignements de déontologie des avocats et des magistrats de Michi, nous disait que la profession des magistrats est une profession qui demande une formation continue. C'est-à-dire, il ne suffit pas de nommer ou de promettre, il faut encore une formation continue. Mais nous sommes inquiets de constater que les magistrats, tant du siège que c'est de parquet, ne sont pas vraiment formés à chaque fois, comme les prévoient la Constitution ou comme les juges le besoin en cause. Donc, à part la nomination ou la promotion, M. Gilles, moi, j'aurais souhaité que le Conseil supérieur des magistrats, avec l'appui du gouvernement, puisse à tout moment procéder à la formation continue des magistrats. Alors, par rapport au suivi des affectations, M. Gilles, ici, on a affecté, je crois qu'il ne faut pas faire la confusion. Ici, à moins que je me trompe moi-même, il n'y a pas eu recrutement. On a seulement affecté, promis et nommé les juges qui ont été promis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui n'étaient pas magistrats et qui sont devenus magistrats. Parce qu'à ce moment-là, je devrais rejoindre les conseils qui appelaient depuis que ça soit, qui disaient associer les universités par rapport aux gens qui sont candidats à ces tests-là. Parce que, M. J.R., c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont nommés magistrats sans être juristes. Ça, c'est inacceptable.
Oui, papy. Oui, papy, on va évoluer quand même dans notre thématique parce que nous avons dit, il y a certains observateurs qui estiment que ces nominations relancent donc les débats sur la poursuite du processus de la réforme aujourd'hui. C'est par rapport à tout ce qui a été décidé aux états généraux de la justice organisé le 28 avril au 2 mai de l'année dernière, qui a formulé, les états généraux qui ont formulé quand même quelques recommandations, entre autres la révision des prêts de la justice, la gratuité de certificats d'indigence et puis l'actualisation du taux des amendes, tout ça pour une justice pour tous. Alors, est-ce que vous avez commentaire là-dessus?
Oui, merci, M. J.R. Moi, je crois que la nomination actuelle n'a pas tenu compte de tous les
recommandations des états généraux.
Elles ne sont pas vraiment objectives. Je parlais de suivi, M. J.R.
Oui, rapidement, parce
que le suivi. Il y a beaucoup de magistrats qui sont à tous certains qui doivent passer à l'intérieur.
Mais qui ne rejoignent pas leur lieu d'affectation. Merci beaucoup, papy. On va prendre Jean-Pierre de Matadi. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, J.R., bonjour la Radio Capi, ainsi que bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Jean-Pierre, rapidement.
Ok, merci, c'est gentil depuis Matadi. Voici mon commentaire. Alors, au stade actuel, moi je trouve cette nomination, c'est là n'est pas juste. Pourquoi? Parce que le gouvernement tend d'abord vers la finition de son mandat. Alors, on nomme aussi des magistrats. Il n'y a même pas aussi des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'on trouve ça normal dans un pays où on nomme des magistrats, où les magistrats vont se retrouver dans son bureau, où il n'y a même pas de papier, et en conséquence, les magistrats vont commencer à faire payer tout cela au dos du plaignant. Alors, on nomme aussi des magistrats pendant que celles-là, d'abord, qui a été nommées, sont d'abord mal payées. Et on se souvient même, il y a l'année écoulée, le premier public a bien difficile devant la nation qui était un magistrat dans 10 ou moins 1200 dollars, mais sur le terrain, on ne la trouve pas. Alors moi, je trouve ça nommé encore des magistrats au stade actuel, et surtout que le gouvernement, dont son mandat va vers son fin. Alors moi, je trouve ça c'est vraiment inopportun.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Jancy de Matadi. Pour vous, il faudrait d'abord améliorer les conditions de travail des magistrats, qu'il s'agisse des magistrats du siège ou encore des magistrats du parquet, pour que on puisse éradiquer tout ce mot qui gangrène l'appareil judiciaire de la RDC. Merci beaucoup. Roussel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Roussel.
Oui, bonjour.
Et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Quel est votre avis?
Oui, merci beaucoup, M. Gir. Je suis des mêmes avis que mon prédécesseur, dans ce sens que déjà nous devons savoir que l'exécutif actuel est en train de nous causer, nous, la population, beaucoup de problèmes. Dans quel sens? Parce qu'à chaque fois qu'ils mettent moins de moyens à n'importe quel domaine, c'est nous qui payons les restes d'argent. Nous prenons l'exemple, par exemple, avec les militaires. Aujourd'hui, étant donné que les militaires sont mal payés, qu'est-ce que les militaires font? Ils complètent leur salaire auprès de la population. De même avec la justice. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'à chaque fois qu'on se présente dans un appareil judiciaire, surtout quand vous avez moins de moyens, sachez-le bien que vous ayez raison, vous aurez vite à les perdre. Pourquoi? Parce que la justice, on les dispose moins de moyens, ce qui fait en sorte qu'ils complètent les restes de leur salaire auprès de la population. Aujourd'hui, il y a une nomination, bien sûr, mais la nomination en question du chef de l'État change quoi? Parce que ça fait aujourd'hui des dizaines d'années qu'on a parlé même de tolérance zéro. On parle de mettre
fin à l'impunité.
C'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'on ne poursuivit pas les ordonnances qu'on donne, qu'on proclame, mais on n'est pas là à la poursuite pour voir est-ce que cela est mis en application ou pas. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, qui ne sommes pas du domaine judiciaire, on s'est plaint parce que beaucoup de choses devaient être vulgarisées. Nous avons tout un ministère pour la justice. Qu'est-ce que c'est ce ministère?
Voilà, Russell, sous réserve de spécialistes, il était aussi dans ses états généraux recommandé pour éradiquer ces fléaux, les techniciens donc du droit qui avaient pris donc part à ces états généraux ont formulé, comme je l'ai dit tantôt, les recommandations qui sont du reste très louables. Ils ont demandé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministère de la Justice la mise en œuvre de l'annexe 2. Je crois que ceux qui travaillent dans les secteurs le savent, de la loi portant statut des magistrats relatifs au barème de rémunération. Alors donc, je crois que c'est à ce niveau-là que la solution pouvait être trouvée et aussi permettre en plus aller étendre vers la tolérance zéro et également la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Michel. Nous revenons à vous, Maître Georges Capiamba, coordinateur de la CAJ. Vous avez suivi cette deuxième série. D'abord, le premier qui voulait avoir quand même des précisions, hein,
ouais.
Des précisions sur certaines choses. Le premier auditeur qui avait réagi.
Alors, le premier a soulevé la question de l'indépendance. Il pense, lui, que les modes, ou mieux la procédure actuelle de nomination des magistrats, ne peuvent pas favoriser leur indépendance. Je lui dis que non. L'indépendance du magistrat ou des membres du pouvoir judiciaire est déjà consacré par la Constitution, notamment par l'article 150. Quand vous prenez les autres articles qui suivent, vous avez par exemple la Constitution du Conseil supérieur de la magistrature qui a été voulue par les constituants comme un organe, le seul organe pouvant s'assurer de la mise en œuvre de cette indépendance par rapport aux magistrats. Donc, voilà qu'aujourd'hui, nous avons un organe qui est constitué uniquement des magistrats, et cela a été voulu, toutes les organisations des droits de l'homme, tous à l'époque, nous nous sommes battus aussi à côté des autres magistrats pour obtenir cela, parce que nous voulions faire rompre la gestion de magistrats, de leur carrière, avec les anciennes pratiques où nous avions constaté qu'avec un conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République ou les ministres de la Justice, il y avait tout le temps des interférences et ça ne leur donnait pas la possibilité de s'assumer. Malheureusement, aujourd'hui, nous parlons, nous, la CAJ, nous faisons le monitoring sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Nous sommes aujourd'hui tous dessus de constater que ces conseils supérieurs de la magistrature n'arrivent pas à relever les défis de l'indépendance. Mais il y a aussi quelques raisons, parce que on lui a privé les moyens, on lui donne pas des moyens. Comme vous venez de l'évoquer, l'annexe 2 de la loi portant statut des magistrats, cette annexe 2 n'a jamais été adoptée jusqu'à ce jour. Et jusqu'à, vous savez que le pouvoir judiciaire ne reçoit pas des fonds de dotation comme c'est le cas avec le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et la présidence de la République ou avec le Parlement. Mmh. Les autres institutions reçoivent des dotations qu'elles-mêmes gèrent de manière indépendante, mais le pouvoir judiciaire n'en a pas jusqu'à ce jour. Donc nous devons nous battre tous pour arriver à faire obtenir ces moyens. Mais nous sommes aussi d'accord que les textes en eux seuls ne suffisent pas. Voilà pourquoi les auditeurs, comme nous de la CAJ, nous demandons toujours aux magistrats de s'assumer. Parce qu'ils ne doivent pas attendre que l'indépendance leur soit donnée sur un plateau en or. Qu'on vienne, lorsqu'il est saisi d'un dossier, qu'on vienne lui dire que dans ce dossier-là, vous devez statuer en toute indépendance. C'est un état d'esprit qui doit aussi se développer dans les magistrats, qui doivent cesser de penser que en rendant toujours des décisions pour plaire au pouvoir exécutif, ça leur assure des promotions ou des meilleures affectations dans des postes qu'ils considèrent comme des postes offrant beaucoup de dossiers. Ils doivent cesser avec ça parce qu'ils doivent savoir qu'ils sont au service. Leur serment dit que nous sommes des serviteurs au service de la population, qu'ils mettent ça, qu'ils intériorisent ça, et que les jeunes juristes qui viennent aussi pour entrer dans cette carrière sachent qu'on ne vient pas dans la magistrature pour se faire.
Alors, il y a des magistrats pour, au fait, rejoindre leur poste d'attache.
Alors,
déjà, un problème, c'est un problème.
Oui,
il y a des auditeurs qui ont les
débats. Alors, là, c'est la faute du gouvernement. Et nous avons toujours insisté dans nos rapports, nos interventions, pour dire donner les moyens qu'il faut. Et moi, je vous dis, j'ai eu déjà à plusieurs reprises des discussions avec les responsables du CSM qui sont mis en difficulté de pouvoir exécuter ce plan pour envoyer les magistrats rejoindre les.
Alors pourquoi avoir organisé les états généraux pour laisser
des
recommandations?
Mais c'est ça la question que tous nous posons. D'ailleurs, vous savez que
ça devient maintenant une habitude dans chaque secteur.
Voilà.
On organise des états généraux, de l'argent,
voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça a été juste des travaux pour dépasser des moyens de l'État. Et à l'avenir, nous devions être tous vigilants pour qu'on ne laisse plus ce genre de travaux s'organiser.
Parce que finalement, si la réalisation est avec nous, prochainement, on pourrait organiser, par exemple, la réunion sur les états généraux, les moyens qui ont été mis à la disposition.
Voilà. Je vais vite pour les autres questions.
Tout à fait, rapidement, parce qu'on va prendre encore les auditeurs.
Alors, vous savez d'abord que les documents qu'on signe à toutes ces recommandations n'a pas été distribué à tous les participants jusqu'à ce jour. Moi qui vous parle,
dans les documents finaux,
sur la place publique,
oui, les documents finaux.
Les documents finaux. C'est un problème, alors que nous savons qu'il y a eu des moyens qui ont été déboursés, plus ou moins 40 000 dollars, pour la production de ces documents. C'est inacceptable. Alors, Papy parle de formation continue. Non, nous pensons, ça, il ne faudrait pas, pour ceux qui sont peut-être loin de ces corps. Aujourd'hui, la RDC, nous avons de bons magistrats et qui sont déjà bien formés et qui se forment pour la plupart déjà très engagés. Ils sont nombreux, mais ils sont limités par les moyens et aussi le problème de l'esprit de favoritisme que nous condamnons.
Ça décourage, ça crée des
questions. Ça décourage, voilà. J'ai compris, papy a parlé, il a dit que non, on n'a pas recruté, mais on a nommé, on a affecté ceux qui étaient là. Oui, mais lorsqu'on doit affecter, il faut respecter les critères. D'abord, l'ancienneté. Lorsque vous voulez nommer quelqu'un comme chef de parquet, parce que la loi dit que celui qui doit être envoyé comme chef de parquet, après être trippé, doit avoir les grades de premier substitut. Il y a des substituts, des premiers substituts qui sont anciens. Il faut puiser parmi les anciens. Il ne faut pas prendre un substitut du procureur qui est censé encore suivre la formation pour le propulser directement au grade de chef de parquet. Regardez sur les ordonnances. C'est ça le cas aujourd'hui. Tout comme aussi pour le président de tripé. Il n'est pas normal qu'on puisse prendre ainsi quelqu'un qui a exercé, même pendant 3 ans, comme substitut du procureur, l'envoyer directement comme président de tripé. Donc, ce sont là les problèmes. Et enfin, il y a la question de tolérance. Tout le monde dit que la magistrature ou le pouvoir judiciaire n'est pas en mesure de relever les défis de tolérance zéro. Mais ils ne se gênent, ne peuvent pas, parce qu'ils sont privés, on leur prive des moyens. En dehors de la privation des moyens, qui est une privation volontaire, il s'ajoute aujourd'hui le trafic d'influence, le clientélisme, tout ce que je viens de relever ici. Lorsque on ne fait pas attention, et là je pense que tous nous devons faire le monitoring, observer, pour qu'à l'avenir les magistrats se sentent aussi à l'aise, mais qu'ils soient surveillés pour qu'ils rendent des décisions à toute indépendance.
Voilà, cette chose citoyenne, ça ressemble également à un monitoring qu'on fait sur la gestion de la chose publique. On va prendre Gires, qui est dans le banc de Louville, et à Kanza, qui est à Kipushi, et Félicien à Kinshasa. Gires, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gires, bonjour à toute l'équipe de la radio Capi, ainsi que bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Gires?
Alors, je pense que d'entrée de jeu, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à toutes ces nominations ainsi que promotions qui méritent nos applaudissements, dans la mesure où, dans certains coins du pays, où on se plaît, où certains prévenus ont passé beaucoup de temps en prison par manque de magistrats. Alors, mais néanmoins, certaines interrogations se posent, monsieur Juillet. Je crois que la seule personne qui est capable d'opérer le miracle, c'est Dieu. Même si ayant toutes ses capacités, mais Dieu a créé l'homme en dernier, c'est-à-dire l'homme est la dernière créature de l'homme, et plutôt de Dieu, mais Dieu a commencé d'abord par améliorer les conditions, plutôt par aménager les conditions dans lesquelles l'homme devait vivre. Alors, si nous devons prendre Dieu pour modèle, bien que ce débat ne soit pas un débat chrétien ni biblique, cela doit nous amener à nous poser certaines questions par rapport aux différentes formalités administratives, financières et sociales. Est-ce que toutes ces formalités vont-elles suivre ces nominations ou bien ça traînera les pas? Alors, va-t-on améliorer le paiement des magistrats et dans quelles conditions ces magistrats vont-ils prester? Voilà un peu, à mon avis, quelques interrogations qui doivent attirer l'attention des pouvoirs publics. Et si on ne fait pas attention, on ne sait pas donner de bonnes réponses à ces interrogations, nous regretterons demain de constater que la justice sera en train de fonctionner au dos des justiciables. Je vous remercie, Gilles.
Je vous en prie, Gilles, d'avoir appelé de Bandundu. Kanza, vous êtes à Kipushi. Bonjour, Kanza.
Bonjour, monsieur Gilles. Monsieur Gilles, je salue l'invité de la CAGE. D'emblée, je veux vous dire que, pour raison de sécurité, j'ai donné ce nom-là, mais je suis juge, donc je suis magistrat. Je suis magistrat dans un tribunal du Haut-Lomami, c'est là où je travaille, maintenant je suis en congé. Mais M. J.R., c'est déplorable. Vraiment, c'est difficile. Les conditions que nos magistrats sont en train de travailler, c'est difficile. Vous arrivez là où on vous a envoyé, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de local, il n'y a même pas de maison à loger. Vous êtes derrière les justiciables qui vous donnent une maison. Vous êtes d'abord locataire. Vous allez vous recruter les greffiers. Et les greffiers, vous commencez à les former. Est-ce qu'il y aura gratuité des frais? Les papiers, vous êtes obligé d'acheter les papiers.
Dommage.
Il n'y a pas de frais ou les frais que le gouvernement vous a envoyés, ou que le gouvernement vous a doté pour acheter les papiers. Des stylos, les conditions de vie des magistrats est déplorable. Déplorable, M. J.R. Vraiment, c'est difficile dans ce pays-là, ce pays-ci. Eric, par rapport aux nominations ici, je connais des amis qui étaient substituts du procureur de la République. Aujourd'hui, ils sont promis premiers substituts. Et
par exemple, dans le tribunal de paix de Kanyama, le tribunal de paix de Kabom, le premier Tshiki qui était là, on a nommé celle de 2010 comme premier substitut chef du parquet. Mais tous les deux parquets secondaires là, les premiers substituts qui étaient là comme chef du parquet sont à l'air, même pas affectés quelque part. Quelle justice que nous allons rendre? Quelle justice que nous allons rendre dans ce pays? Nous, d'abord, là, moi qui vous parle, M. Juillet, je n'ai jamais reçu l'argent de mon déplacement qu'on donnait. Jusqu'à présent, j'ai une famille, je dois déplacer la famille jusque-là. Et vous pensez quelle justice que nous allons faire, M. Juillet? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Kanza. Vous avez dit que vous êtes vous-même un juge et vous avez préféré, pour raison de sécurité, d'intervenir sous l'anonymat de ce nom-là, donc Kanza de Kipushi. Et vous avez évoqué des cas concrets, des faits concrets qui se déroulent, des cas de frustration, des cas d'injustice au sein de la justice HM. Bon, voilà. Donc, ce qui présage déjà, en fait, l'échec d'un processus. Mais, de toute façon, nous savons qu'il y a un processus qui est engagé, que la RDC s'est engagée dans un processus de réforme de la justice et au-delà de cela, il y a des états généraux qui ont été organisés, il y a des recommandations. Notre problème, c'est d'aller vers l'application de ces recommandations. Alors, Félicien, on va vous prendre. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à vous, les auditeurs de Radio Capus.
Vous avez deux minutes avant le flash.
Oui, vraiment, on n'a pas de temps. Les autres ont déjà dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais moi, je cite sur le fait que notre loi donne trop de pouvoir aux magistrats et on pense que l'homme chez nous est le même que celui qui est en Occident, alors que nous sommes pleins d'antivaleurs. On ne tient pas compte de ces antivaleurs, on ne tient pas compte de la corruption, du clientélisme, du tribalisme qui nous caractérise ici, mais on a donné les mêmes pouvoirs à nos magistrats comme ceux qui sont en Occident, parce que nos lois sont venues de l'Occident et on a tout copié de l'Occident. Et moi, je pense que nous devions tenir compte de tous ces aspects et prévoir des garde-fous pour que les magistrats ne soient pas maître de tout, pour un petit rien, il peut envoyer quelqu'un en prison, pour un petit rien, il peut faire ce qu'il veut. Et pour cela, moi, je demande qu'on renforce un peu les pouvoirs de l'inspection judiciaire, l'inspection des magistrats, je ne sais pas comment on appelle ça. Il devrait avoir beaucoup plus de pouvoirs pour chercher à ramener aussi les magistrats sur les droits. Les magistrats verraient sur les droits chemins, et chaque fois qu'ils veulent s'écarter du droit chemin. Si on les laisse comme ça, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens souffrent, parce que les magistrats sont devenus comme des dieux qui ont le pouvoir de vie et de mort sur les autres.
Merci beaucoup, Félicien. Juste un mot, Georges, par rapport à cette réaction.
Alors, c'est vrai, l'inspection de magistrats existe. Nous avons l'inspectorat de services judiciaires. Il y a l'inspection qui doit être assurée par les chefs hiérarchiques, que ce soit du côté de juridictions ou des offices. Il y a les conseils supérieurs de la magistrature. Aujourd'hui, il y a toute une procédure pour prendre à partie un magistrat. Vous pouvez déposer une plainte lorsque vous considérez qu'il a commis une faute. Ça existe. Il faut que les gens s'y habituent à pouvoir le faire. Mais nous disons, nous répétons que nous devons avoir le courage à la fois de plaider pour qu'on leur donne des moyens, parce que comme les juges venaient de donner l'exemple, je connais celui qui était par exemple à Boukam, le premier substitut. C'est quelqu'un qui a été même attaqué à l'époque par le groupe Maïmaï, qui a perdu tout. Mais voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui a souffert comme ça, on le laisse à l'air. Au moment où, par exemple, on nomme dans les trois clipés de Lubumbashi, Kamalondo, Kampemba et consorts, on nomme des procureurs alors que cela n'est pas prévu pour les tripés.
Alors, c'est ça qui est
inacceptable, ça démotive ceux qui sont engagés à pouvoir travailler correctement.
Voilà, on va revenir sur cet aspect des choses. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent participer à ce débat en composant les 081-800-315. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans ce débat citoyen. Philippe, merci d'être là. Léopold, vous êtes à Kinshasa et Dr Richard également dans la ville-province de Kinshasa. Nous revenons d'abord à vous, Maître Georges Kapiamba, vous êtes notre invité. Vous évoquez tout à l'heure, avant le flash de formation, les cas de Bukama, où il y a un juge qui a même été une fois victime de l'agression, de la pression des groupes armés.
Voilà, mais c'était le premier substitut qui était chef de parquet. Effectivement, j'ai constaté qu'il n'a pas eu une promotion. S'il n'est pas affecté quelque part, c'est vraiment déplorable, parce qu'on doit être en mesure d'encourager ce genre de citoyens. Il avait été attaqué, tout s'est bien perdu, la famille mise en déroute. Il avait accepté de reprendre son poste à Bukama. Ça, ce sont des injustices qu'il ne faut pas acceptables au sein de la magistrature. Alors, votre auditeur a dit qu'on donne beaucoup de pouvoir aux juges et aux magistrats qui pensent avoir la vie et la mort sur tout le monde. Non, mais il doit accepter que nous sommes en démocratie. Lorsque vous êtes en démocratie, la démocratie ne peut exister que si nous avons un pouvoir judiciaire indépendant. Mais lorsque vous êtes poursuivi, vous devez seulement vous assurer que vos droits, vous garantissent par les lois de la République, sont respectés à la fois par vos adversaires, mais surtout par ceux qui sont appelés à trancher les litiges. Quand il y a des problèmes, adressez-vous auprès de la hiérarchie, de ces juges, et s'il n'y a pas de solution, essayez de contacter les organisations des droits de l'homme qui travaillent dans le secteur. Une mobilisation va être menée autour de ces cas-là. Donc, c'est un pouvoir voulu par nous tous, parce que si nous n'avons pas un pouvoir judiciaire indépendant, nous en tant que citoyens, nous ne serons pas protégés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer les phénomènes qui est en train de se développer au niveau de la justice, c'est-à-dire l'institutionnalisation, la propension vers l'institutionnalisation de la torture et la criminalisation de l'existence de la liberté d'expression au niveau de la justice, dans le sens où nous constatons que la justice inflige même des peines contre des citoyens arrêtés seulement pour avoir exercé leur liberté publique. Donc, ça, c'est vraiment la responsabilité qui incombe aux magistrats qui doivent prendre conscience en se disant que conformément à l'article 150 de la Constitution, ils ont l'obligation de protéger l'exercice des droits et libertés publiques. Ils ne doivent pas en criminaliser, c'est-à-dire commencer à condamner les gens comme votre auditeur a évoqué le cas de Goma. Nous avons vu des juges comme ça condamner des citoyens pour avoir exercé leur liberté publique. C'est inacceptable. Les magistrats qui s'évertuent à se comporter comme ça jettent vraiment de l'opprobre sur l'ensemble du corps, alors que nous savons qu'au sein de ce corps, il y a des magistrats consciencieux qui sont prêts à travailler réellement et correctement pour alors payer s'ils ont des moyens. Et si aussi on valorise davantage la sanction positive et négative, parce que il ne faut pas toujours administrer la sanction positive, mais il faut aussi veiller sur la sanction négative.
Voilà, on va passer de l'autre côté du standard pour accueillir les derniers auditeurs qui nous ont rejoints dans cette émission. Philippe, vous êtes à Kindou. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs, Philippe.
Philippe, bonjour les auditeurs de la radio Gabia Transmonde. J'aimerais juste intervenir en disant ici, en tant que politologue et analyste qui a circulé la vie de Kindou, j'aimerais vous donner mon point de vue concernant cette ordonnance qui a été publiée de la magistrature. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui sont nommés et je tiens à remercier le chef de l'État sur son bravoure qui a manifesté la volonté de faire la restructuration sur les faits. J'aimerais donner le point de vue en tant qu'analyste sociologue sur ce point. Cet aspect vraiment donne du... Il y a vraiment à voir et aussi à manger sur cet aspect. Alors, pour dire que monsieur Jouer, que les politiciens d'aujourd'hui ne savent pas capitaliser les prix. Ça, c'est un point réel qu'il faudra que certains projets puissent bâtir sur la justice congolaise. Et si vous comprenez, ce n'est pas le problème de tout ce qui se passe, c'est le problème d'hommes à la magistrature. Il faudra avoir les hommes qui ont la conscience.
Oui, alors Philippe, je vais vous aider pour qu'on gagne un peu du temps. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez de notre justice après les états généraux qui ont été organisés au mois d'avril et mai de l'année dernière? Quel est le regard? Est-ce que la justice donne l'accès à toute la population? Est-ce que la population a accès à la justice, à une bonne justice? et aujourd'hui les magistrats, est-ce que vous pensez que la réforme de la justice repose aussi sur l'amélioration du conditions de travail des magistrats?
Monsieur J.R., vous devrez comprendre que ce n'est pas le problème non seulement de la réforme, mais c'est le problème d'homme. Si du moins la réforme est venue donner.
Voilà, merci beaucoup d'homme. Philippe. Vous avez rejoint vos prédécesseurs, c'est un problème d'homme. Léopold, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Léopold.
Bonjour Monsieur J.R. Nguembo.
Vous avez la parole Léopold. Quel est votre avis?
Merci beaucoup Monsieur J.R. pour la parole par vous me donner. Je voulais tout simplement apporter ma contribution dans le sujet d'aujourd'hui, tout simplement parce que je ne serai pas trop loquace, je serai distant, étant donné que mes prédécesseurs ont presque tout vidé l'objet de la question. La nomination, les différentes nominations qui sont intervenues par le week-end dernier par le chef de l'État, tout observateur judiciaire averti ne doit qu'encourager ces nominations. Mm-hmm. Mais il se pose, M. Gier, un problème, comme l'ont dit le prédécesseur, un problème d'indépendance du pouvoir judiciaire et le caractère, ou du moins le temps que ces nominations viennent à point nommé. Parce que, selon certains observateurs, on voit comme si ces nominations sont venues ou sont tombées tout simplement pour intercaler les différents recours introduits par les différents candidats aux élections des gouverneurs. Voilà, les gouverneurs, parce que vous le savez, il y a eu un tollé de beaucoup de candidats dits soit de l'indépendant ou de l'opposition, les candidatures sont vues rejetées. Mais pour garantir un peu l'indépendance, je crois que M. Georges, qui est sous votre invité, l'a un peu dit. Je crois à l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006, pose un peu ce genre de principe, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. À son alinéa premier, l'article stipule que les magistrats ou des sièges sont inamovibles vis-à-vis dans leur exercice de tâches qui leur sont dévolues. Si vous descendez un peu à la linéa 2, M. Gier, vous vous rendez compte que la linéa de l'article 150 pose le problème que le juge n'est soumis qu'à l'autorité, à la seule autorité de la loi. Cela renforce de façon, sur le plan textuel ou sur le plan législatif, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mmh. Mais cette indépendance n'est pas que sur l'aspect ou l'emballage de la Constitution. L'indépendance doit, dans un premier temps, être organique, ou du moins, l'indépendance doit être mentale ou psychologique.
Voilà, alors Léopold, je pourrais quand même vous demander d'être un peu...
Un peu bref,
parce que, bon, finalement, dans le terme technique, ça risque un peu de nous perdre dans les débats.
De se permettre à tout le monde de comprendre l'aspect technique.
Donc, on comprend qu'il y a encore des problèmes, même la réforme a du pain sur la planche, pour qu'on arrive finalement au résultat, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup.
Pour garantir tout simplement, un mot. D'accord. Pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous ne devons pas assister à des nominations presque à toutes les années dans l'organe judiciaire. Prenez par exemple que la démocratie n'est pas un modèle congolais. Prenez par exemple aux États-Unis, où un juge de la Cour suprême de justice, une fois nommé, pour qu'il soit révoqué, il ne peut pas être révoqué plutôt parce qu'il doit soit par
décès. Merci parce qu'on va terminer cette émission avec Dr Richard. Dr Richard, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à l'invité aussi. Félicitations à ceux qui sont nommés. Alors, moi, je me pose la question, nous avons quelle justice? Une décoration qui plaît ou une justice qui donne qui est la nation? Je dis ceci pourquoi? Où en sommes-nous avec le dossier des 18 millions de Congolais qui sont tués par la rébellion? Où en sommes-nous avec le dossier Bosco Ntangana qui est vide ici chez nous, mais cet homme dans son honnêteté est allé se livrer parce qu'il sait qu'il est terminator? Où en sommes-nous avec les femmes, le dossier des femmes congolaises toutes en vie et toutes vivantes, et les femmes ont fait payer leur part d'épargne, les t-shirts, etc. Elles ont oublié tout ça. Où en sommes-nous alors avec le dossier Boujolot? Boujolot a reconnu. Celui qui le jugeait, c'était un rebelle comme lui. Ça, c'est quelle justice? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Richard. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. À chaque fois que nous vous proposons nos thématiques, n'hésitez pas donc de participer à cette émission ou encore quand vous découvrez nos thèmes ou les thématiques que nous vous proposons sur notre page Facebook, réagissez.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des hommes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, maître Georges Capemba, nous avons deux minutes pour conclure cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir écouté les uns les autres, on peut dire qu'il y a quand même nécessité de pouvoir rappeler à l'autorité publique l'application, la nécessité d'application de ces recommandations et résolutions formulées lors des derniers états généraux organisés à Kinshasa?
Oui, mais hier, c'est ça l'impératif. On savait que on peut tout dire, on peut évoquer toutes les autres raisons, mais le principal acteur à qui on doit lancer, adresser toutes les interpellations, c'est le gouvernement congolais. Parce que si le gouvernement congolais ne réserve pas les moyens nécessaires, ne dote pas les pouvoirs judiciaires, comme c'est prévu par la Constitution, des moyens qu'il faut pour son fonctionnement, on ne pourra jamais avoir une justice réellement indépendante. Ça sera peut-être une deuxième chose, mais on peut aussi y arriver si les magistrats eux-mêmes prenaient aussi conscience, parce qu'ils ne doivent pas toujours attendre les meilleures conditions, nous le savons tous, pour arriver les fiches à faire, à lancer des signaux d'encouragement. Parce que seule l'indépendance, la qualité de la justice peuvent aider à construire la confiance de la population, des autres acteurs dans les chefs des magistrats. Aujourd'hui, vous avez suivi tout le monde, presque la majorité, les gens ne font plus confiance à notre justice. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de problèmes. Et nous terminons par rappeler qu'il avait été déjà annoncé dans ce pays depuis beaucoup d'années que les magistrats, déjà au grade de substitut de procureur, devaient toucher $1,600. Nous encourageons le gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, à rendre cela concret pour que nous soyons aussi plus vigilants et exigeants vis-à-vis des magistrats.
Maître Georges Capemba, vous êtes le coordonnateur de la CAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Merci d'avoir été de l'autre dans ces débats. Nous disons également merci à tous les auditeurs qui ont participé à cet échange citoyen. Enfin, nous félicitons donc toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Salaïs était à la mise en onde, Pierrot Lamézi à la réalisation, Gilles Pesa Bongonda au standard. Et cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs.